réponses, une suite dans les idées en forme de conférences de presse autour de quelques spectacles que l'on peut voir au Festival d'Avignon ces jours-ci. Nous allons commencer par Gloria, un triptyque de Jean-Marie Piem, mise en scène de Jacques Vincet avec Alexandra Castellon. L'auteur, le metteur en scène et l'interprète sont ici avec nous autour de cette table. Alors je commencerai peut-être par vous, Jacques Vincet. Je rappelle que vous êtes comédien, vous avez travaillé avec Chéreau, avec Bondy, avec Sobel. Vous êtes également metteur en scène et en 95 vous avez fondé la compagnie Sirène et vous vous définissez un jeune metteur en scène mais un vieux du théâtre. Alors vieux c'est très relatif parce que je crois que vous avez 41 ans, mais vieux par rapport à l'expérience de metteur en scène j'imagine.
Oui exactement, c'est une envie qui est née petit à petit, qui s'est construite et densifiée au fil des années jusqu'à arriver à monter une pièce d'un autre conteur contemporain qui s'appelle Jean-Charles de Paul. La pièce s'appelait Opéra Cheval il y a 4 ans maintenant. Et puis Gloria qui s'est construite petit à petit au fil de cette année.
Oui. Alors justement, Gloria se compose de 3 textes de Jean-Marie Piem. Les nageurs, la serveuse n'a pas froid, le tueur souriant. Tous les 3 centrés autour d'un personnage, Gloria, qui raconte et qui revit 3 moments de sa vie. Alors, ce sont des textes que vous avez approchés progressivement, par étapes, en commençant d'ailleurs par le dernier, le tueur souriant. Alors, je voudrais vous poser cette question. Comment, dans cette démarche progressive, votre approche a-t-elle évolué? Votre approche des textes de Jean-Marie Piem?
C'est un travail effectivement qui s'est fait par étape et par nécessité, puisque en fait on est parti vraiment sur une envie de travailler sur le dernier texte, Le Tueur Souriant, que j'avais découvert au hasard d'un stage de mise en scène où il y avait plusieurs textes proposés, dont ce texte qui se présentait sous une forme très dense. C'était 7 pages serrées, c'est-à-dire non dialoguées, avec pour seule indication texte pour plusieurs acteurs. Donc la forme m'intéressait et le fond m'a très vite aussi intrigué et j'avais envie d'aller plus loin sur ce travail, sur ce texte. Et donc on a eu l'opportunité de travailler d'abord sur ce texte, donc c'est un texte qui dure une demi-heure à peu près, dans le cadre d'un festival qui avait lieu à Annecy, qui s'appelle Les Chantiers de la Banane Bleue. Et donc on a monté ça en mars l'année dernière, très vite. C'est-à-dire qu'on a répété 10 jours dans les trous des uns et des autres. Donc c'est un travail qui s'est fait un peu sur une impulsion, sur une grande envie d'abord de creuser dans ce texte. Et puis les conditions ont fait qu'on a été au plus direct, là où l'intuition nous poussait. Et puis on a eu la chance de le reprendre une première fois et puis de le reprendre à la Ménagerie de Verre au mois de novembre dernier. Là, en pouvant développer les 2 autres parties du triptyque. Donc ça s'appelait Gloria Fragment, puisque il y avait des fragments des 2 premières pièces. Et avec, suite à ces 2 premières étapes, et suite à ces premières impulsions, intuitions qui nous avaient fait rentrer dans ce texte, évidemment une confrontation avec le public, et puis une réflexion qui est arrivée, il y a différentes couches qui ont sédimenté. Et puis petit à petit, le travail s'est repris ensuite à Friction en mai à Dijon, puis ici. Et c'est vrai que c'est un travail qui avance petit à petit, qui est à chaque fois remis en cause par la présentation. Et donc on essaie à chaque fois d'apporter un petit peu plus, tout en gardant la fragilité du travail, en essayant de garder la fragilité du travail. Maintenant on arrive à une forme qui est à peu près fixe, mais qui néanmoins s'adapte à chaque fois à des espaces différents. C'est un peu l'enjeu de ce spectacle, c'est-à-dire qu'on ne joue pas dans des salles dites classiques. On joue dans le sous-sol du gymnase au Banel, qui est donc un garage à vélo habituellement. Et donc chaque fois, ces formes nous obligent à nous poser d'autres questions, à aborder le texte un tout petit peu différemment. Et ça, je trouve ça très, très riche et très... Enfin, je pense que ça nous oblige à aller plus loin à chaque fois.
Donc c'est un travail, un mouvement, si on peut dire. Mais est-ce que dès le départ, vous aviez eu l'idée, l'intuition, comme vous dites, qu'il fallait un seul personnage sur scène, puisque je rappelle que Gloria, donc la protagoniste de cette histoire, est seule sur scène, en tout cas seul personnage en chair et en os. Sur scène, et c'est elle qui fait exister les autres personnages qui n'apparaissent qu'à travers des images ou des voix off, à travers des photos de grande dimension projetées ou bien sur des écrans ou sur le mur, et des photos qui font penser à des portraits anonymes comme des photos d'identité ou des photomatons. Alors, est-ce que ce choix s'est imposé dès le départ? Et par ailleurs, pourquoi ce parti pris? Pourquoi ce parti pris de mêler des personnages images avec un personnage vivant sur scène?
Ben, je crois, je parlais tout à l'heure du moment où j'ai découvert ce texte, qui est intriguant par sa forme, et qui, moi, m'a particulièrement intrigué au point que j'ai eu envie de travailler dessus, parce qu'il oblige, je trouve que c'est vraiment l'écriture de la richesse de l'écriture de Piem, qui oblige à prendre un angle. On peut pas, il n'y a pas de solution au départ. On est obligé de se situer par rapport à ça, de faire des choix. Et d'ailleurs, ce texte a été monté par différents metteurs en scène ces dernières années et de manière assez radicalement différente. Donc, je disais tout à l'heure que la seule indication que l'auteur nous donnait, c'était texte pour plusieurs acteurs. En l'occurrence, il y a une seule actrice sur scène, mais c'est vrai que j'ai eu envie très vite de jouer avec ce texte qui parle d'une réalité très crue, très brute, qui est le braquage d'une banque, mais à travers une personne qui reconstitue, c'est une reconstitution braquage de banque, mais cette reconstitution est à la fois très concrète et à la fois par moments très mentale. On ne sait jamais très bien quel est le degré de vérité, quel est le degré de fantasme. Et j'avais envie de travailler là-dessus, sur ce décalage entre une réalité, la réalité aussi d'une actrice en chair et en os sur scène, et puis des voix qui la traversent, des images qui la traversent, qui soient à la fois des images de la vraie réalité, entre guillemets, et des images de la vraie subjectivité de cette personne dans toute sa fragilité. Donc on a commencé par ce travail sur le tueur souriant, qui était la dernière pièce, et qu'après on est remonté vers l'avant, en fait, bizarrement. Parce que ça s'est fait dans ces conditions-là, comme je disais tout à l'heure, un petit peu aussi par nécessité. Donc ça nous a posé d'autres questions sur les deux premières pièces qui sont beaucoup plus, en tout cas, il y a une progression comme ça entre la première et la troisième. On part d'une écriture plus linéaire, plus dramaturgiquement classique, c'est-à-dire une histoire qui se raconte, une jeune fille qui rencontre deux garçons, ils passent la nuit ensemble et ça commence à 6h du matin, ça se termine à 6h. Ça commence à 6h du soir, ça se termine à 6h du matin. Et puis petit à petit, cette réalité bouge. Donc on a en fait tiré cette idée de subjectivité, de réalité qu'elle s'approprie totalement. Et on a essayé de la faire évoluer de la première à la troisième pièce, donc d'un contexte plus linéaire, je dirais, à quelque chose de beaucoup plus
complexe.
Oui, méandreux, mais...
Alors, ces personnages en images, ces visages, apparaissent et disparaissent, évoqués, convoqués et congédiés, tour à tour, par Gloria, par le récit de Gloria. Et au fond, c'est elle le metteur en scène de sa propre histoire. C'est elle qui fait apparaître les visages, c'est elle qui déchire les écrans et fait disparaître ces visages. Elle vous a un peu ravi le rôle de metteur en scène.
Mais tant mieux, c'est très bien, c'est formidable, si c'est ça l'impression que ça donne. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est quelqu'un qui nous raconte sa vie, qui nous fait part de trois petits moments de son existence. Et c'est vrai que on en a parlé avec Alexandra. Ce qui m'intéressait aussi par rapport à cette écriture et par rapport à Alexandra, c'était de voir comment on pouvait passer d'une jeune femme de 25 ans qui s'appelle Alexandra Castellon, qui raconte une histoire d'un personnage qui s'appelle Gloria et qui par moments est tout à fait Gloria. Et donc ce travail de construction, de passer d'une manière d'être en scène à une autre nous intéressait particulièrement. Et c'est vrai que c'est elle qui gère ça sur le plateau.
Vous êtes derrière, bien sûr.
On en a un petit peu parlé, ouais.
Et alors, ce qui frappe dans ce spectacle, c'est justement la constitution, la création d'un espace mental. Vous disiez tout à l'heure, le spectateur ne sait jamais si, au fond, le récit de Gloria est le récit de faits réels ou si ce n'est qu'une suite de fantômes ou de fantasmes qu'elle évoque. De même qu'il y a un fantôme réel, si je puis dire, qui est celui du père de Gloria, à qui elle donne sa voix, avec qui elle dialogue. Mais les autres aussi pourraient être des fantômes.
Oui, mais...
Elle pourrait être mégalomane, au fond. L'histoire du braquage de la banque fait penser, peut-être par moment, à quelqu'un qui s'inventerait dans une vie ordinaire un événement extraordinaire qui fait peur, mais qui en même temps la sort de son anonymat.
Mais c'est exactement ça qui m'intéresse dans ce texte, vraiment. C'est-à-dire qu'on est obligé, quand je disais en tant que metteur en scène, on est obligé de l'attraper par un bout. Et bien évidemment, mon travail a cherché à respecter ça aussi, c'est-à-dire à pouvoir offrir au spectateur la possibilité de choisir de se raconter l'histoire qu'il veut par rapport à ce qui lui est proposé. On lui ouvre des fenêtres et là-dedans, j'espère, chacun se projette, se raconte son histoire qui sera différente de celle de son voisin.
Alors, j'étais frappée hier, en assistant au filage de la pièce par le contraste qui existe entre la fixité des images, des photos. Certaines sont animées, mais enfin pour la plupart elles sont fixes. Et donc c'est une expression unique, figée, d'un visage, et puis la voix off de ce même personnage qu'on voit en photo. Et cette voix décline toutes sortes de sentiments, de tonalités, etc. Et il y a là un décalage qui est intéressant.
Oui, enfin, je ne sais pas si c'est ça dont vous voulez parler, mais c'est vrai qu'il y a tout un travail au-delà de ce... Enfin, il y a ce parti pris, et puis ensuite, il y a eu la réalisation de ce parti pris. Donc là, pour le coup, on a travaillé vraiment ensemble avec Frédéric Minière qui s'occupe du son, avec Julien Bureau qui a fait les images, avec Laurent Bénard qui fait la lumière, avec Véronique Kay qui est ma collaboratrice et avec qui on a beaucoup parlé de tout ça. Je dis ça parce que vous parliez du son. Et évidemment, pour faire exister ces degrés, ces différents degrés de réalité, de fantasme, il y a tout un travail, en particulier sur le son, de spatialisation, on ne sait jamais très bien d'où ça vient. Je crois que ça paraît très simple, j'espère, mais c'est un travail très, très, très précis et poussé.
Oui, ce que je voulais dire, ce qui me frappait, c'était le côté figé de l'image, donc qui ne donne qu'une seule expression, anonyme, hein, assez anodine, et la voix qui, elle, induit des propos parfois violents, parfois brutaux. Et donc c'est ce contraste qui me semblait particulièrement intéressant, ce décalage. Et c'est un décalage aussi qu'on retrouve, par exemple, quand Gloria, comédienne à chair en os, devient une silhouette noire à contre-jour projetée sur une photo, et à ce moment-là, elle rejoint en quelque sorte cette armée d'ombre que sont tous les autres personnages. Là aussi, il y a un décalage.
Oui, mais je parlais tout à l'heure de fenêtres que j'essayais d'ouvrir. Bon, vous parliez des photos avec Véronique Kay, avec qui j'ai travaillé. C'est elle d'ailleurs qui m'a parlé d'un photographe qu'elle connaissait qui s'appelle Thomas Roof, oui. Qui est un photographe allemand qui travaille sur des très grands formats de photos. Vous parliez de photomaton, c'est un peu ça, mais c'est encore plus réaliste et neutre que des photomatons, sauf que en général, ils présentent ça sur des formats de 3 par 4, c'est très très grand. Et c'est des photos qui ne racontent pas d'histoire, a priori, donc on est obligé, nous, de raconter des histoires par rapport à ça. Donc, c'est vrai qu'on s'est inspiré du travail de ce photographe pour les photos, dans cette idée-là, c'est-à-dire dans cette idée que c'est une image qui est envoyée, mais cette image, elle a une voix qui est ça par moment, qui est une voix qui est ça par moment, qui peut raconter des choses très différentes. L'écueil étant évidemment d'illustrer une voix par une image.
Et d'une manière plus générale, votre intérêt justement pour les images, la projection, la vidéo à l'intérieur d'une pièce de théâtre. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez creuser, que vous allez poursuivre?
Peut-être, mais c'est vraiment...
Qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans?
Bon, ce qui m'intéresse, il y a des choses très personnelles, c'est-à-dire que les images, le son, c'est des choses qui m'intéressent depuis longtemps. J'ai réalisé un court-métrage il y a quelques années, qui était un court-métrage muet, mais accompagné en direct par une chorale qui chantait le printemps de Vivaldi. Enfin bon, c'est des choses qui, moi, c'est une sensibilité, une chose que j'aime bien, mais quant au fait de continuer à travailler avec des images vidéo, photo, je ne sais pas, ça dépendra des prochains projets. En tout cas, ce que je sais, c'est que ça, ce travail était lié à cette écriture spécifique. C'était une manière de l'attraper avec la difficulté de ne pas se faire dévorer par les technologies qui fonctionnent sur un temps différent que le temps du théâtre. Donc il y a eu aussi tout un travail de réflexion sur comment on utilisait ces autres moyens de raconter des histoires et comment on les faisait rentrer dans le théâtre et non pas le théâtre devant se plier à, en particulier, le temps. C'est vrai que le temps des images est un temps fixe, le temps du théâtre n'est pas un temps fixe, c'est un temps qui fluctue. Donc bon, toutes ces questions étaient passionnantes aussi à résoudre, hein, mais encore une fois, je crois vraiment que c'est des choses qui sont arrivées de l'écriture et non pas envie de travailler en soi avec des images vidéo, parce que c'est dans l'air du temps.
Ouais. Jean-Marie Piem, je rappelle que vous êtes né en Belgique, que vous êtes l'auteur d'une vingtaine de pièces. Et comment s'est passée la collaboration avec Jacques Vincent? Et d'abord, est-ce qu'il y a eu collaboration?
Je dirais qu'elle a été exemplaire pour moi comme auteur, parce que, au fond, quand un auteur écrit, en tout cas moi quand j'écris, je n'ai pas une idée extrêmement précise de ce que je cherche en scène. C'est-à-dire que je ne veux pas occuper la place du metteur en scène lorsque j'écris. J'essaye modestement d'occuper ma place à l'écriture. Et donc, même si j'écris très sciemment en vue des acteurs et en sachant que ce texte va être interprété, je n'ai pas une idée trop étroite de ce qu'il pourrait advenir du texte. Mais évidemment, dans ce cas-ci, j'ai quand même été très surpris. J'ai quand même été très surpris, puisqu'au fond, quand j'ai écrit notamment Le Tueur Souriant, j'ai dit, effectivement, c'est un texte pour plusieurs acteurs. Je l'ai écrit parce que je me disais, on va penser que c'est un monologue habituel. Il y a des gens qui vont me dire, bah oui, t'as écrit un monologue, quoi. Bah non, j'ai pas écrit un monologue, j'ai écrit un texte polyphonique, fortement polyphonique. Alors quand Jacques m'a dit qu'il allait le faire avec une actrice, je me suis dit, bah, ça c'est étrange, parce que c'est exactement ce qu'il ne faudrait pas faire. Mais en même temps, comme son parti pris dramaturgique est très fondé et très justifié, il y a à la fois une façon de me trahir et une façon de me rejoindre en même temps. Et ça, je trouve que c'est très beau, pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est une bonne collaboration de ce point de vue-là, parce que au fond, ce qui m'importe moi dans l'écriture, enfin une des choses de manière générale qui m'importe dans l'écriture, c'est la polyphonie. C'est le fait que, quelque part, des voix parlent. Enfin, voilà, que ce soit dans la tête ou que ce soit dans le réel, si vous êtes au milieu d'une gare, que vous laissez traîner vos oreilles au milieu d'une gare, vous entendez des tas de discours qui vous rejoignent. Si vous fermez les yeux, vous entendez des tas de voix à l'intérieur de la tête. Donc, cette idée de la polyphonie m'est, moi, très importante. Or, tout à coup, Jacques et Alexandra, finalement, la font exister très bien. Cette polyphonie, c'est-à-dire ils la font exister à un lieu qui n'est justement pas celui où j'avais prévu de le faire exister. Donc d'une certaine manière, je trouve que c'est un bon cas de complémentarité entre un travail d'écriture et un travail de mise en scène et de jeu.
Alors je vous cite, vous avez écrit « Remettre en jeu le réel, le décomposer, le recomposer, briser son caractère unidimensionnel, le faire apparaître comme une fiction parmi d'autres ». Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans la pièce par Jacques Vincent.
Exactement. On parcourt la frontière entre ce qui pourrait être ou ce qui a été. Enfin, on ne sait pas. Enfin, on ne sait pas si cette femme raconte effectivement une chose réelle ou si c'est quelque chose qu'elle s'invente et qu'on pourrait inventer avec elle. Au fond, comme quelqu'un qui vous jetterait des bribes de souvenirs au visage. Et puis, à partir de ces bribes-là, chacun reconstruit lui-même son propre continent du souvenir. Donc j'aime bien cette espèce d'indistinction. J'aime pas que les choses soient trop précises, enfin qu'elles restent un petit peu non fixées. Et il me semble que l'infixé dans le théâtre permet au spectateur d'y mettre son plaisir, son désir, sa jouissance.
Alexandra Castellon, alors pour une jeune comédienne, on connaît votre âge, on l'a dit tout à l'heure, 25 ans, sortie depuis peu du conservatoire, être seule sur scène avec des partenaires virtuels et donner la réplique à des voix off, c'est une expérience assez singulière, pour commencer, ou presque.
Ouais, c'est assez singulier, mais la vidéo, c'est pas un support qui me fait peur, hein. C'est plutôt familier même pour moi. Là, c'est une question qui revient souvent, évidemment, quoi, pour le spectacle, mais moi, je suis une fille de la génération télé, plutôt, et donc c'est quelque chose qui m'est ouais, vraiment familier.
Donc bouger au milieu des images, des projections, de la vidéo, des photos, non ?
Je trouve ma liberté au fur et à mesure des représentations, parce qu'au début, c'est sûr, j'étais pas très à l'aise, mais maintenant, je crois que j'ai trouvé la liberté à l'intérieur.
Alors Jean-Marie Piem dit que écrire c'est boxer, hein, que le réel avant d'être un contenu est un contact, un impact. Écrire c'est donc boxer. Est-ce que raconter sa vie, raconter la vie de Gloria sur scène est aussi une forme de combat et cette fois-ci de une forme de boxe justement avec des images.
Ouais, c'est un combat de boxe, ouais. C'est pas mal. Parce que je raconte aussi. La vie d'une jeune fille d'aujourd'hui, et enfin, si je prends mon expérience, ma vie ça peut être aussi un combat de boxe tous les jours, donc c'est ça que j'essaie de raconter, de faire passer aux gens.
Voilà, Gloria, c'est donc au gymnase Aubanel jusqu'au 22 juillet. Merci. Alors, dans le cadre du programme Texte Nu, proposé par la SACD et Jean-Michel Ribes, dans la cour du musée Calvet en Avignon, un auteur, un texte, un comédien, l'auteur Martine Drey, le texte Il suffit de peu, la comédienne c'est Ludmila Michael. Et je commencerai par vous, Martine Drey. Je rappelle que vous êtes écrivain, peintre, metteur en scène, comédienne. Il suffit de peu, c'est un texte que vous avez écrit en 95, je crois.
Non, j'ai écrit ce texte en 90 jusqu'en 93, je l'ai en le laissant tomber assez souvent, et puis il a été réalisé sur France Culture, et puis il a été monté, je l'ai interprété, et puis il est allé à l'oubli pendant un petit temps, et puis Ludmila va le lire ce soir, et voilà, il ressurgit.
Alors, Il suffit de peu, c'est un long monologue sur le quai d'une petite gare. Une clocharde raconte tout ce qui lui passe par la tête, ses souvenirs surtout, sa vie passée lorsqu'elle était belle et élégante, et comment elle en est arrivée là. Elle s'adresse tour à tour aux voyageurs qui attendent leur train. Les voyageurs s'en vont, mais elle reste, elle continue de parler. Je n'ai que ça à faire, moi, de me poser des questions. Et elle n'attend pas de réponse. D'ailleurs, elle dit à un moment donné, je suis celle à qui on ne répond pas, je suis là pour ça. Et je trouve que c'est une des phrases les plus terribles de ce texte, les plus insoutenables, que quelqu'un soit là pour que la société, les gens normaux, entre guillemets, puissent se passer de réponse.
Oui, mais Martine Drey. Je voudrais enlever la chose. Vous dites, ça m'apparaît le plus terrible. C'est terrible, mais en même temps, c'est extrêmement jouissif. Elle ne le dit pas uniquement sur le mode plaintif ni tragique. Elle dit toujours les choses sur deux ou trois modes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Monsieur Piem parlait de polyphonie tout à l'heure, et moi, je parlerai volontiers, concernant ce texte, de polysémie. C'est une voix extrêmement polysémique. C'est une seule voix, si l'on veut, mais si polysémique qu'on peut la considérer aussi comme une... Non, pas comme une polyphonie, comme une polysémie. Donc une multiplicité de sens, j'y tiens beaucoup. Les choses sont toujours énoncées sur deux modes, ou trois modes, ou quatre modes, et doivent être entendues comme ça. Ce n'est pas que tragique. On m'a souvent dit à propos de ce texte que ça rejoignait le problème des SDF, et là je dis non, ce n'est pas le problème des SDF, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une clocharde qui jouit de son indignité et qui ne cherche pas la dignité des SDF. C'est exactement l'inverse du problème des SDF. C'est une clocharde heureuse de l'être qui a conquis son indignité et donc son impunité. Voilà, c'est ça l'histoire de Georgette. C'est pas une SDF, c'est une clocharde heureuse et agressive.
Et comment est née l'idée de ce personnage ? Donc vous disiez c'était un 90. Qu'est-ce qui vous a amené à créer le personnage de Georgette ?
C'est deux ou trois clochardes que j'ai croisées dans un temps de ma vie que je regardais et qui avaient l'air et qui ne cherchaient pas du tout la dignité, qui étaient dans leur foutoir de caddie qu'elles trimbalaient avec des objets immondes et qui ne servaient à rien, qui adoraient visiblement ces objets et qui étaient très bien dans leur crasse et leur impunité. Voilà. Donc j'ai eu envie de sortir cette jouissance qui intègre évidemment la souffrance, mais j'ai eu envie de sortir la polysémie de sa jouissance et souffrance, qui est plus intéressant à écrire que le problème des SDF. Je comprends qu'on ait envie de l'écrire, mais bon, ce n'était pas ça que j'avais envie d'écrire du tout. C'est donc d'avoir croisé des clodos, quoi, comme on disait dans le temps. Voilà, c'est tout.
Ludmila Mikael,
oui.
Alors, pour une comédienne qu'on ne présente plus, cet exercice particulier qui consiste à être seule avec un texte, avec des mots, sans intermédiaire, on verra peut-être qu'il y en a eu un, justement une collaboration avec Martine Drey, en tout cas sans mise en scène, sans décor, j'imagine. Donc ce texte nu est une épreuve pour
oui,
la comédienne.
Oui, une épreuve, mais une épreuve de bonheur aussi. C'est vrai qu'il y a une nudité, il y a une table, voilà, un verre. On est, en plus, il y a la lumière du jour, ce qui est assez finalement difficile pour la concentration. J'ai toujours préféré jouer, d'ailleurs, on sait bien, dans la cour d'honneur, on attend que la nuit tombe, parce que tout d'un coup, il y a une concentration qui s'établit. Donc c'est, oui, à nu. Pour répondre à la deuxième question, la collaboration avec Martine, non, Martine, je peux le dire, j'ai téléphoné à Martine à un moment de grand doute et je lui ai dit, est-ce que vous pourriez me dire une ou deux choses, et elle m'a dit, mais ce texte est vôtre et je vous fais confiance et n'oubliez pas les silences, voilà. Donc c'est ce qui va précéder le texte aussi qui est très important. Parce que le danger d'une lecture, c'est de n'être que dans les mots. Voilà. Parce que justement, il n'y a pas le travail des répétitions qui fait qu'on va choisir ensemble ce qui est derrière les mots. Donc on ne s'accroche qu'aux mots. Et donc je vais essayer ce soir de respecter ces silences. Et c'est vrai, en écoutant, je pense que c'est tragique, mais en même temps, c'est une femme qui prend conscience à un moment de sa vie. Elle parle de sa pauvre vie de gourde, enfin de sa, je ne sais plus exactement, enfin, qui a, au bout de 41 ans, qu'elle s'est peut-être trompée de vie, en une fraction de seconde. Et je pense que c'est quelque chose qui peut nous guetter tous, qui peut nous mener dans le caniveau, mais qui peut nous mener à changer de pays, qui peut nous mener à changer de métier, à changer d'amour. Et je pense que ce point de rupture, c'est une chose qu'elle a, à un moment, elle a choisi, voilà. Et c'est une nouvelle vie, elle parle d'ailleurs de sa première vie, et en fait là, on raconte sa deuxième vie, peut-être. Est-ce qu'il y en aurait une troisième ? On ne sait pas, peut-être.
Est-ce que c'est une forme de théâtre minimaliste, on peut dire, où on ne peut compter, comme vous le disiez, que sur la force d'un texte, sur l'intelligence qu'on peut en donner, sur sa voix, ou sur la voix, la chair qu'on peut apporter à ce texte ? Est-ce que d'ailleurs le corps, pour une comédienne enfin habituée à des grandes scènes, mise en scène.
Comment ça se passe ? Là, le corps va être. Enfin, je vais être dans une position qui est la position assise, mais bon, je ne suis pas une grande experte des lectures. Je ne suis pas la reine de la lecture. Heureusement, d'ailleurs. D'ailleurs, une chose qui me fait très très peur, J'ai lu pour la première fois ici, il y a quelques années, 3 ou 4 ans, je crois, le livre de ma mère d'Albert Cohen, dans le même... Dans... Et je sais que j'avais une... Ce dont je me souviens, c'est une sorte de fièvre. Enfin, qu'il y a des... le corps change de température. Ça, je peux... Oui, il y a des... D'ailleurs, le personnage qui s'exprime, Georgette, elle a tout le temps froid. Mais je pense que l'actrice qui lit, ou l'acteur, il a plutôt chaud. Ou il a, voilà, les mains moites et des choses. Il s'agite peut-être... il peut boire. Mais alors, il y a une incarnation qui n'est pas une incarnation. Il y a une certaine distance et en même temps une incarnation. C'est c'est trouver la juste place. C'est ça qui est difficile entre l'incarnation et la lecture. De toute façon, la juste place, c'est le travail de tous les comédiens tout le temps. Être juste.
Alors, justement, Ludmila Mikhaïl parlait de la température du corps du comédien pendant la lecture, et dans cette pièce, il suffit de peu, il est précisément question d'un manteau, c'est ce manteau qui fait basculer, et de température.
C'est-à-dire qu'en effet, c'est quelqu'un qui dit qu'elle a tout le temps froid, mais qui raconte aussi le moment d'une fièvre. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis ce n'est pas que tragique. D'abord, c'est une menteuse, à l'évidence, elle raconte des histoires, et c'est ça, sa liberté, c'est qu'elle ment, elle raconte des galéjades. Elle raconte particulièrement, c'est toute la seconde partie du texte, une histoire qui est totalement invraisemblable. Et c'est très important dans le texte. Le texte est pour moitié cette histoire invraisemblable. C'est-à-dire, elle raconte un match de tennis qui ne peut pas exister. Et à l'occasion de ce match de tennis auquel elle prétend avoir assisté, elle dit bien qu'elle a eu de la fièvre, qu'elle a eu une poussée de chaleur énorme. Donc, elle raconte ça, elle raconte cette partie de tennis invraisemblable. C'est une menteuse. Et c'est important, la dimension du mensonge. C'est pour ça que je parlais d'impunité tout à l'heure. C'est-à-dire que on peut dire qu'elle ment parce qu'elle a un coup dans le nez, mais on peut dire aussi que pas du tout. Qu'elle ment parce que c'est l'autre impunité. C'est comme d'avoir conquis l'indignité, d'avoir conquis le mensonge. C'est sa liberté. Donc, ça n'a rien à voir avec les SDF dont je parlais tout à l'heure. C'est tragique, mais pas. Peut-être que l'histoire de sa chute aussi est un mensonge. On ne sait pas. On ne saura pas. Et je pense que c'est important, cette dimension de la parole, parce qu'elle ne s'inscrit pas du côté de la vérité. Elle s'inscrit du côté de une souplesse de la vérité, ou d'un énoncé de la parole qui côtoie la vérité, mais qui peut s'en échapper. On ne sait pas où est la vérité. C'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle affirme. C'est son échappé.
Alors, quelqu'un a très justement remarqué que dans l'effervescence, voire l'agitation du Festival d'Avignon, enfin, qui règne pendant le Festival d'Avignon, et c'est normal, on y vient aussi pour ça, quelqu'un a fait remarquer que Texte Nu, donc ce programme de la SACD, représente une sorte de moment de répit, entendre un texte intensément, on le disait, sans artifice. Hein, si on veut appeler artifice la mise en scène, les décors, les costumes, etc. Alors, je me demandais, Ludmila Mikhaïl, si quelque chose de semblable, de comparable, peut se passer pour une comédienne qui, à travers cette expérience, cette confrontation avec un texte, brise en quelque sorte le rythme qui doit être le sien, j'imagine, généralement, de répétitions, de pièces de grands auteurs sur des grandes scènes, avec des grands metteurs en scène, etc. Et est-ce que ce travail, donc un peu à part, est quelque chose qui peut nourrir le reste de votre travail ?
Oui, c'est un travail très solitaire et c'est vrai qu'il y a une ambiance tout à fait particulière dans ce musée Calvet, mais c'est un peu comme si... Enfin, moi, je le sens comme ça. J'étais tombée... Je me suis éprise d'un texte et j'ai envie de le dire à des gens. Voilà. Simplement, moi, toute seule, dans mon coin, j'ai ouvert un livre et j'ouvre le livre et je voudrais vous le dire à voix haute. Voilà. C'est un peu différent, effectivement, du travail de comédie. Enfin, on peut dire aussi que... De jouer une pièce de théâtre et d'incarner un personnage, c'est ça aussi. Mais là, c'est la première, peut-être la première approche qu'on a d'une pièce qu'on reçoit et tout d'un coup on aime et on dit voilà, je vais vous la lire ou je vais vous dire ce texte. De partager, et j'apprécie beaucoup moi aujourd'hui de, parce que je suis à Avignon et Avignon c'est à la fois bon, un souvenir magnifique et le soulier de satin et je suis contente d'être avec Martine Drey parce que nous avons connu Antoine Vitesse à peu près à la même époque. Parce que Martine était élève d'Antoine pendant que moi je créais Partage de Midi. Et en même temps, Avignon était un souvenir de bonheur et d'angoisse terrible. La cour d'honneur et cette, comme vous dites, cette effervescence. Bon. Et là, il y a un petit moment comme ça, un peu protégé. Et puis c'est ma solitude. Et j'étais seule. Et maintenant, ce soir, je serai avec d'autres. Qui seront bienveillants, amicaux. Enfin, il n'y a pas cette notion de jugement, de sanction, de je ne sais pas. Enfin, c'est un petit moment comme ça, j'espère, d'innocence aussi.
Et donc, la deuxième question que je vous posais, est-ce que cette expérience de solitude peut réjaillir sur le reste de votre travail ?
Oui, parce qu'en fait, je m'aperçois que quand on travaille un rôle, je crois qu'on ne lit jamais assez la pièce. Enfin, j'ai l'air de dire une énormité. Mais je crois que même quand on est déjà dans le feu des représentations, il est très important de relire simplement. Le phénomène de la lecture, c'est fou ce qu'on peut découvrir, même en dehors des représentations, même des représentations qui sont saluées, etc., avec succès, dans la lecture. Là, je m'aperçois en relisant et relisant et relisant, les choses apparaissent comme, vous savez, comme phénomène photographique, quoi. Il y a la révélation. Tout d'un coup, il y a des choses, des mots qui sortent et qu'on n'avait pas. Et je pense qu'il faut tout le temps relire, même quand on joue. Et donc ça, c'est une... Je m'aperçois de ça. Je me dis, je ne lis pas assez les pièces que je joue. Voilà.
Il suffit de peu, Martine Drey, Ludmila Mikael. Dans le cadre de mots d'auteur, dans la cour du musée Calvet, programme proposé par la SACD, La jouissance du scorpion de Véronique Olmy, qui est comédienne, auteure de plusieurs pièces, dont Chaos debout, créé ici même, au Festival d'Avignon en 88, c'est ça ?
98.
La jouissance du scorpion, c'est une pièce pour quatre personnages, un couple de retraités qui vit dans le sud de la France. Ils attendent leur fille Hélène qui arrive de Paris. En face du petit pavillon travaille un ouvrier noir qui sera l'invité inattendu. Il est blessé, il demande du secours et c'est son intrusion qui va bousculer l'apparente normalité familiale. Alors, comment Véronique Olmy est née l'idée de cette pièce, dans quelles circonstances ? Je crois que c'est une pièce qui a été écrite en résidence à Villeneuve-les-Avignons.
Oui, ça n'a pas de rapport avec Villeneuve-les-Avignons, même si ça se passe dans le Vaucluse. J'avais écrit plusieurs pièces qui parlaient d'hier. Notamment une pièce sur la poétesse russe Marina Tsvetaeva. Et puis tout d'un coup, je me suis dit qu'il fallait que je parle d'aujourd'hui, que c'était un peu simple de toujours dire on relit aujourd'hui, on lit aujourd'hui en relisant hier. Je suis un peu saturée de ça. Et donc j'ai voulu écrire un texte sur le Front National. Alors pendant des mois, j'ai lu leurs écrits, leurs discours, j'ai lu tout ce qui était les analyses des politologues sur les thèses Front National, etc. Et finalement, tout ça, je l'ai ramené à un texte extrêmement quotidien, très prosaïque, pour parler du fascisme au quotidien, dans ce que ça peut avoir de plus insidieux. Je pensais aux lettres de dénonciation des Juifs qui se sont écrites durant l'occupation et je me suis dit finalement un tout petit acte isolé, secret, qui ne sera jamais puni, fait basculer des généalogies entières. Et donc là, c'est ce thème de la lettre anonyme qui est repris mais à la toute fin de la pièce. La pièce se déroule... C'est un repas entre deux retraités, leur fille, et puis tout d'un coup, il y a cet ouvrier sénégalais qui surgit là, et puis ça bascule, parce que là, je voulais que le personnage Front National soit un personnage féminin. On me l'a beaucoup reproché, moi j'y tenais, parce que le fascisme n'est pas seulement masculin, Il y a ici dans le Vaucluse, on le voit, il y a beaucoup de femmes qui sont Front National. Et cette femme-là, elle est un peu paranoïaque, donc elle a peur de tout. C'est une femme qui ne risque rien. Je voulais que l'environnement soit extrêmement protégé. Ce sont des gens, on ne peut pas leur prendre leur travail, on peut pas leur, ils sont à la retraite, tout va bien, ils ont leur petit pavillon. Voilà, apparemment, il n'y a aucun danger. Et pourtant, pour eux, comme pour les gens du Front National, le danger est partout. Le danger les guette et le danger, c'est l'altérité. C'est celui qui est derrière la fenêtre. Et là, derrière la fenêtre du pavillon, c'est un ouvrier qui repeint une façade. Et c'est lui qui va être le bouc émissaire de toutes ces frustrations, de toutes ces peurs irrationnelles, de cette paranoïa, et qui va payer pour ça.
Alors, Véronique Olmy, vous allez lire votre texte, vous êtes comédienne, vous êtes auteur de pièces, et on imagine toujours, enfin, peut-être à tort, mais qu'il doit se livrer une sorte de bataille un peu schizoïde entre les deux, la comédienne et l'auteur. Est-ce que l'auteur guide la comédienne dans sa lecture? Est-ce qu'il a un peu ce rôle du metteur en scène? Est-ce que la comédienne, au moment de l'écriture, est derrière l'épaule de l'auteur pour lui souffler des mots, pour lui dire « Tiens, ça, ce sera bien en bouche ouais, ». Comment ça se passe, ou c'est nous qui ne sommes ni comédien ni auteur, encore moins les deux à la fois, qui imaginons cette sorte de combat.
C'est pas dans le travail de main de la comédienne que ça influe. C'est quand j'écris, je lis, je relis tout le temps le texte. Et je sais pas comment font les autres, mais c'est vrai que c'est un travail de mise en bouche et de rythme. Le texte, c'est le rythme. C'est ça qui compte. Je pense que c'est vraiment la forme. Et maintenant, quand je le lis toute seule chez moi, en me disant voilà, tu vas lire, mais comme disait Ludmila Michael, c'est amical. Il y a pas d'enjeu terrifiant, quoi. Il y a pas une sanction après la lecture. Et là, je pense pas du tout à l'auteur, non. Parce qu'il y a pas, j'ai horreur de commenter les choses. C'est déjà très difficile, je trouve, de venir parler de ce qu'on a écrit, d'écrire des textes, de présentation, de commenter ce qu'on a fait. Donc encore moins dans le travail de la comédienne.
Donc finalement, dans votre lecture, vous allez être les quatre personnages à la fois.
Oui.
Cela ne vous fait pas peur?
Mais si, mais moi j'aime bien avoir peur, donc c'est c'est bien.
Et finalement, dans cette histoire de mots d'auteur, tout comme pour texte nu, le grand exclu, c'est le metteur en scène.
Ah, mais moi, s'il y avait eu quelqu'un pour me guider, j'aurais bien aimé. Mais en même temps, je trouve que c'est quelque chose de brut comme ça, d'un peu impudique et de bon enfant, quoi. Voilà, on a écrit et on vient avec nos maladresses, avec nos hésitations, on vient lire ce qu'on a écrit et c'est un rapport immédiat avec le public. Moi, je le fais tout le temps, ça. Je le fais au moins une ou deux fois par an. Je lis mes textes comme ça en public c'est un exercice que j'aime bien et en général, il y a une bonne résonance avec les gens qui écoutent.
Impudique, pourquoi ?
Bah parce que quand on écrit, on se laisse aller à un travail avec l'inconscient et on livre beaucoup de choses sans le savoir. Et puis, une fois que c'est couché sur le papier, on s'en rend compte par le regard des autres, par l'écoute des autres. Et quand on le dit soi-même, on est sur les deux niveaux. On avoue beaucoup plus que quand on est que quand on délègue à des comédiennes, à des metteurs en scène.
Alors je poserai la même question pour terminer à Martine Drey, Ludmila Michael, peut-être ce grand exclu de l'exercice de texte nu et de mots d'auteur qui est le metteur en scène. Est-ce que c'est une sorte de, je dis pas de revanche sur le metteur en scène, mais une façon peut-être de se sentir plus libre?
Vous savez, la structure de la présentation de ces textes est ainsi. Il n'y a pas d'exclu, il y a un absent, mais pas un exclu. C'est structuré comme ça, c'est tout. Je crois que c'est simplement une forme plus légère et qui ne nécessite pas, me semble-t-il, la présence d'un metteur en scène. Que ferait le metteur en scène là-dedans? Franchement, nous sommes à une table, nous lisons des textes. C'est encore une chose que les acteurs savent faire très bien. Les acteurs prennent des décisions, des options. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce que ferait le metteur en scène là-dedans. Non, je ne sais pas, c'est pas insolent ce que je dis, c'est vrai. C'est tout.
Ludmila Michael.
Oui, c'est vrai, ce soir, ça va être ma proposition. C'est certain que si soudain on décidait de le jouer au théâtre, j'aurais besoin, moi, de quelqu'un qui va m'ouvrir d'autres fenêtres, donner d'autres clés avec qui je pourrais creuser. Mais là, tel que c'est, voilà, j'espère que ma proposition sera... J'aimerais surtout, ce que je trouve extraordinaire, c'est d'être à côté d'un auteur vivant, ayant beaucoup joué d'auteurs disparus. Et je suis toujours très, très heureuse et très émue de côtoyer des auteurs.
Merci à vous tous, à Martine Drey, Ludmila Michael, Véronique Colmy, Jacques Vincet, Alexandra Castellon et Jean-Marie Piem. Merci.